D'Hervilly, la dernière heure. Chers et brillants souvenirs de l'enfance, pur trésor enfoui dans le cœur, richesse fragile, bien-aimé passé, sortez aujourd'hui de la retraite où je vous ai soigneusement garanti de la rouille des passions humaines. Venez donner une impulsion touchante à ma plume. Souriez-moi, belles et rapides soirées, passez à lire sous les rayons calme de la lampe de famille. Souriez-moi avec vos beaux yeux, où le rire irise les flammes comme le soleil les gouttes de pluie. Et vous qui, le menton sur la paume de la main, vous laissez quelquefois aller à remonter le courant de l'âge, écoutez-moi. Ma voix sera douce, elle traversera votre rêverie sans vous en tirer virtuellement, cruellement. Et peut-être, ô mes amis inconnus, bien loin de troubler les consolantes images qui passent devant vos yeux à demi fermés, ma voix fera-t-elle sa partie avec grâce dans le concert qui vibre au fond de vos âmes. Le 30 mars 1713, à l'âge de 80 ans, un voyageur que nous avons tous aimé voyait devant ses yeux fatigués par le soleil de 100 pays s'ouvrir enfin la mystérieuse porte de l'éternité. On avait roulé l'antique fauteuil dans lequel il faisait sa dernière halte devant la fenêtre à carreaux étroits qui donnait sur la Tamise. Une petite table couverte de fioles de toute grandeur était postée à côté de lui. Sur un perchoir de rotin des Indes, un gros perroquet, tout bouffi, regardait tristement le vieillard en clignotant de ses paupières blanches. De nombreux témoignages étranges de pérégrinations lointaines décoraient les murailles. Le soleil pâle de Londres, qui se couchait là-bas entre les bas des vaisseaux dont les cordages formaient une fantastique guipure noire, caressait amicalement les meubles de la chambre. Il les quittait à regret, un à un, et l'ombre avide le remplaçait immédiatement, heureuse d'étendre son voile funèbre sur ce qu'avait été joie, lumière. Un vieux chat, au pelage bizarre, avait fait son ronron habituel sur la couverture velue qui enveloppait les genoux du mourant. Celui-ci, immobile, laissait errer ses yeux calmes sur cet ensemble d'objets aimés qu'il allait abandonner pour toujours. Des quatre points cardinaux, ils étaient pourtant venus là, ces coraux éclatants, ces arbres étranges, ces fruits singuliers énormes, ces poissons effrayants, ces oiseaux microscopiques, ces minéraux chatoyants, hélas. Et il fallait laisser tout, tout. Des héritiers éloignés, presque inconnus, les vendront. Ils iront orner la boutique d'un revendeur. Triste pensée. On n'entendait plus rien dans la salle aux solives brunies, rien que le ronflement régulier du chat pelotonné et écho confus d'un monde que le vieillard ne devait plus parcourir, les cris d'appel des mariniers sur les rives du fleuve. Une vieille femme, une gouvernante peut-être, accroupie dans un coin, essuyait furtivement ses yeux gonflés de larmes amères. Amères, oh bien amères, devaient être ses pleurs, puisqu'un siècle et demi plus tard, j'en sens le goût âcre dans le fond de ma gorge. Et la chambre, de plus en plus, s'emplissait du crépuscule navrant qui annonçait la mort du jour et le sommeil des choses de la terre. Et le vieillard était seul. Autour de lui, aucune marée ne laissait sa trace brillante sur une joue potelée d'enfants, de petits-fils. Seul un chat, un perroquet, et une femme salariée, réunissant les qualités et les défauts de ses deux acolytes. Voilà tout. Ô désolé soir, sombre abandon. Si, si, fit le vieillard, que désire votre honneur? Ma vieille amie, prenez dans la boîte de cèdre rouge la pipe que je conserve comme la prunelle de mes yeux, celle où je n'ai pas fumé depuis plus de 20 ans. Et puis, cher maître, bourrez-la à moi et me la portez, et puis laissez-moi seul, j'ai besoin de me recueillir. Il prit la vieille pipe de terre, informe, grossière, dans laquelle il n'avait pas fumé depuis plus de 20 ans, et l'alluma. Puis il se renversa sur le dos de l'antique fauteuil, et au travers des nuages bleus et blancs qui s'échappaient du fourneau, il contempla longuement un dessin suspendu au mur devant lui. À vrai dire, malgré son cadre étincelant, c'était un pauvre et singulier dessin. Il était fait avec amour. Était-ce l'œuvre d'un chinois minutieux, ou le triomphe d'un écolier fort dans sa classe? N'en sait vraiment rien. Mais il était si petit détail qu'il ne fut travaillé gothiquement, religieusement. C'était, du reste, une simple carte géographique. Elle ne représentait ni la France belliqueuse, ni l'Angleterre marchande, ni l'Allemagne rêveuse, ni la libre Amérique, ni le pays des mosquées, ni le pays des traîneaux, ni le pays des alligators, ni le pays des patins ne figuraient sur cette carte. On n'y voyait qu'une île marron sur une mer bleuâtre. Et le vieillard la savourait de l'œil, lentement. Sa prunelle mourante suivait dans ses moindres sinuosités la ligne coloriée qui démarquait les contours de l'île perdue au sein des flots. Et de temps en temps, sur certains points, son œil s'arrêtait avec une visible ivresse. Le soleil s'en allait, il descendait plus bas encore. L'aurore s'avançait plus rapidement aussi. « Vieillard, mais que voyez-vous, dites, que voyez-vous sur ce papier colorié? Pourquoi n'achevez-vous pas la vieille pipe? Ce qu'il voyait, ô rêveur, à l'heure où tout s'efface, ce qu'il voyait, j'en donne ma parole, nous ne le verrons pas. Voici ce qu'il voyait. » Là-bas, aux antipodes, le soleil se lève. Il émerge du sein flamboyant d'une mer à petites vagues. Ses rayons déjà brûlants éclairent l'île tout entière. La plage étincelle comme un diamant à des milliards de facettes. Ah, qu'il ferait bon marcher pieds nus sur ce sable fin, chaud, à la couleur blonde. Les grasses tartues, la tête et les pattes en sûreté, paffent un coin de la grève. Les petits crabes vont de côté, et au moindre bruit, au sifflement d'un oiseau, ils creusent rapidement leur retraite dans le sable mouillé. Voici la baie où le capitaine anglais fut amené. Que vois-je? Est-ce la trace encore fraîche de la chaloupe qu'on y fit échouer? Dieu, que le petit havre d'autrefois est agrandi. 3 canots matés y sont à l'ancre. Et plus loin, autant que la vue peut s'étendre, comme une mer houleuse, la masse des arbres bien connus, d'un vert puissant, transparent au soleil, ondule au souffle de la brise matinale. Plus loin encore, au pied d'une chaîne de petites collines, perçant le gai feuillage, on aperçoit les toits pointus des ruches d'Osier d'Atkins. Mais l'île se réveille. Des formes humaines se meuvent certainement dans la pénombre, entre les troncs des arbres. De graves Espagnols à la barbe blanche, très longue, descendent le fusil sur l'épaule, la petite côte au sommet de laquelle est bâti le château. On s'aborde en souriant. Du doigt, on se montre le soleil, père des heureuses moissons. Aucune ambition ne plisse ses fronts épanouis. une joie sereine est peinte sur tous les visages, une atmosphère de vie bien remplie de contentement parfait environne ces braves gens. Mais les singuliers habits, mon Dieu, les modes inconnus, Seigneur, quel chapeau! Leur forme appartient à la civilisation moderne, mais la matière dont ils sont faits les ramène au premier siècle du monde. Un jeune homme promène une longue vue sur tous les points de l'horizon. N'ayant rien aperçu, il la remet doucement à sa ceinture. Ce sera pour une autre fois, semble-t-il dire, demain peut-être. Notre bienfaiteur est si loin, que notre reconnaissance seule peut aller de notre cœur au sien. Puis quel est ce vieillard chauve, à l'œil plus doux que celui d'un enfant? Il tient de chaque main un petit garçon. Une femme au teint cuivré l'accompagne et le regarde avec sollicitude. « Oh, je vous reconnais, sous le masque de vos honnêtes années. Vous êtes Guillaume Atkins, terrible Atkins, le rebelle du passé, le bon père aujourd'hui. Bonjour, Atkins, que Dieu fasse toujours battre votre cœur et celui de vos enfants, au nom de la vertu et de la famille. » Voilà ce qu'il voyait. Vieillard, n'eût-il pas été doux de passer le reste de la vie au milieu de ces cœurs purifiés par l'absence des relations avec notre monde pervers? Vieillard, toi qui meurs isolé, dans la sombre demeure, au sein d'une ville de brouillard et de fumée, connais-tu rester dans cette île de soleil et de parfum? Vieillard, avais-tu donc perdu dans ton exil de 28 ans le souvenir de nos mesquineries, de nos infamies, de nos crimes? Et quoi? Avais-tu donc une telle soif d'un retour dans nos climats brumeux que tu aies pu oublier les désolés compagnons de ta vie d'épreuve pour l'étancher? Maître absolu de tous ces hommes qui te remerciaient autrefois de leur devoir avoir conservé l'existence, maître béni, maître adoré, comment as-tu donc pu accepter nos servitudes, nos courbettes, nos lois, nos systèmes? Ô vieillard, vieillard, la mort eût été si désirable et si simple et si calme sous les grands arbres que tu avais plantés. Et tu ne l'as pas voulu, tu t'es replongé dans le desséchant tourbillon du monde, de ce monde qui broie les uns pour faire rouler plus doucement la voiture des autres, sur leur poussière muette, hélas. Qu'as-tu gagné? Tes rêves ont-ils été plus doux? Tes repas plus savoureux? Tes joies plus grandes? Non, tu n'as fait qu'y perdre un ami. Une flèche a percé le cœur qui bondissait à ton seul nom. Et tu n'as même pas eu la consolation, la douloureuse consolation, de pouvoir le mettre dans une terre sur laquelle tes yeux auraient pleuré. Pauvre sauvage, et la proie des poissons. En ce moment, le soleil disparut complètement. Une vague lueur rougeâtre colorait à peine le haut des mâts. La tête du vieillard s'inclina sur son épaule. Ses doigts se détendirent et la pipe qu'il tenait, tombant à terre, se brisa en 1000 morceaux. Alors, tiré brusquement de sa somnolence par ce bruit inattendu, le perroquet bouffi s'agitant convulsivement sur son bâton, se mit à crier comme au temps jadis. « Pauvre Robinson Crusoé, pauvre Robinson, où êtes-vous? Où avez-vous été? » Mais Robinson Crusoé ne l'entendit pas. Son âme était déjà bien loin, sur la route de l'inconnu. Elle allait rejoindre l'âme de vendredi.